Le texte est tiré de la version de la nouvelle édition de Genève, le chapitre 6 de l'Épître aux Galates. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Amen. Merci, Christine. Juste avant d'aller dans un mot de prière, je voulais revenir sur une annonce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Vous avez entendu qu'on a le lancement des cours bibliques dans 2 semaines, le 8 septembre. Et puis, ça va être suivi d'un repas communautaire, d'un repas qu'on appelle Agapé en Église. Et puis, je vous invite, après la célébration, à vous inscrire pour le repas. Et puis, ça va être à la table à l'arrière. Puis aussi, à inscrire ce que vous pouvez apporter. On va chacun apporter quelque chose, puis partager ce repas-là ensemble. Donc, je vous invite, après la célébration, vu qu'il reste déjà juste 2 semaines, à aller à la table et vous inscrire. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est précieuse parce que par elle, tu nous révèles qui tu es, ce que tu attends de nous, toi qui es notre Créateur, celui qui nous a créés dans un but, dans le but de te glorifier. Seigneur, on s'approche de ta parole ce matin et on réalise que c'est un privilège d'avoir les Écritures entre nos mains. Lorsqu'on pense à ces gens qui sont ailleurs dans le monde, qui n'ont même pas accès à une partie des Écritures dans leur propre langue, Seigneur, on oublie souvent le privilège qu'on a d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir la lire, l'étudier, et ainsi entrer en relation avec toi et te connaître davantage. Merci pour ta parole. Et Seigneur, ce matin, on veut, en Église, s'approcher de cette bonne parole afin que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que par l'Esprit qui vit en nous, par ton Esprit, que tu puisses rendre nos cœurs sensibles, sensibles aux enseignements de ta parole et qu'on puisse être disposé, Seigneur, à être corrigé si on a besoin d'être corrigé, à être exhorté, encouragé, à marcher pour toi et pour ta gloire et dispose nos cœurs à recevoir ce que ta parole nous donne ce matin. Qu'on ne l'oublie pas, Seigneur, mais qu'on la mette en pratique et qu'on puisse vivre pour toi. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse ressortir d'ici ce matin avec un nouveau désir, un nouveau zèle de vivre pour toi et pour ta gloire, parce que tu nous auras parlé par ta parole. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. On les appelle les glorieux. Vous savez de qui je parle? Non, non. Les glorieux. Vous savez pas de qui je parle? Oui, oui. De qui? Les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal. On les appelle les glorieux. Pourquoi on appelle les Canadiens les glorieux? 24 coupes Stanley depuis leur histoire. Un record inégalé et puis loin d'être égalé. Les glorieux ont remporté la Coupe Stanley 24 fois. Et puis, entre les saisons de 1956 et 79, ils ont remporté 14 des 23 Coupes Stanley. Et donc, ça a été une période glorieuse dans l'histoire du Canadien de Montréal. Et c'est un petit peu différent d'aujourd'hui, hein? Ça a changé. La période des glorieux n'est plus la même. Mais mes parents, puis plusieurs d'entre vous, avaient connu les années de gloire du Canadien avec Maurice Richard, son frère Henri, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Yvon Lambert, et puis Steve Schott. Vous vous souvenez de ces joueurs-là? Moi, j'ai pas vu. J'ai connu Guy Lafleur dans le temps qu'il jouait pour les Nordiques, mais il était rendu dans la quarantaine. Il avait perdu ses années de gloire, si on peut dire. Mais ces hommes-là, ils ont connu la gloire. Puis ils ont atteint le but qu'ils s'étaient fixé, l'énergie, avec tant d'énergie, pendant plusieurs années, à se préparer pour ce but ultime, remporter la Coupe Stanley. Et puis, ces hommes-là l'ont même remporté plusieurs fois, puis ont connu la gloire après tant d'années d'énergie. J'ai joué au hockey aussi dans ma vie. J'ai eu mes petits moments de gloire. C'est rien comparé aux Canadiens, mais je me souviens de ce moment où j'étais dans la catégorie bantam. Je devais avoir 14 ou 15 ans à l'époque. Et puis, on était inscrit dans le tournoi local, mais c'est un tournoi provincial. Et puis, c'est nous qui accueillons le tournoi provincial de hockey bantam de l'ancienne Lorette. Et puis, on était l'équipe locale. Et puis, on s'était rendu en finale. Et là, le dimanche après-midi, l'aréna bondée pour la finale de l'équipe locale contre l'autre équipe dont je me souviens plus. Et c'était la musique au début dans le warm-up, le réchauffement, puis là, ah, wow! Hey! Là, le moment de gloire. On s'est fait laver, mais c'est pas grave. Ça a été un petit moment que je me souviens, que je me souviendrai toujours, ce petit moment où on jouait l'équipe locale, l'aréna bondée, c'est jamais arrivé une autre fois, puis ça arrivera plus non plus. Mais c'est ça. Mais on a plusieurs sujets de se glorifier, que ce soit notre succès dans un sport ou dans les études, les diplômes qu'on peut accumuler. On peut faire de ces différentes choses-là des sujets de gloire. On peut se glorifier de notre vie de famille, d'avoir élevé plusieurs enfants, d'avoir une famille qui est bien élevée, dire « regardez ce que j'ai accompli ». Puis surtout nos grands-parents qui ont élevé des fois 7, 10. Et dans le village où mon père vivait, une femme disait qu'elle avait 2 douzaines et demie d'enfants. Ça veut dire que c'est énorme. Elle pourrait se glorifier de ça. 30 enfants! Énorme! Incroyable! On peut se glorifier du succès dans le travail, travailler, mettre des énergies à occuper un poste plus élevé, tirer des meilleurs avantages. Et dernièrement, dans notre société, on voit souvent des concours, les jeunes cherchent la popularité à travers les Star Academy, la voix, toutes les choses que les gens recherchent, un moment de gloire, la popularité. Mais malgré tous ces sujets-là, où on peut trouver une certaine gloire. Il y a une question qui demeure. Combien de temps ça va durer tout ça? Qu'est-ce qui va rester de tout ça rendu à la fin? Évidemment, il y a des moments de joie, puis on veut se réjouir. La question, c'est si je poursuis ça comme mon seul sujet de gloire, qu'est-ce qui va rester à la fin? On voit dans le passage de ce matin que certains parmi les chrétiens du premier siècle cherchaient leur gloire dans leurs exploits. Dans son mot final, Paul va parler du seul sujet de gloire que lui a découvert. Et il dit, « Je ne veux pas me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. » un seul sujet de gloire, le seul sujet de gloire qui va perdurer pour l'éternité, la croix de Jésus-Christ. Paul avait lui aussi dévoué sa vie pendant plusieurs années à rechercher sa gloire en observant la loi, en étant un homme extrêmement religieux. Paul se décrit dans Philippiens 3 comme étant irréprochable par rapport à la loi. Un jour, il dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. À cause de la gloire de Jésus-Christ, toutes ces choses-là, je les ai vues comme de la boue. Et malheureusement, les Galates, comme on l'a vu, ont été influencés par des judaïsants à mettre leur gloire dans l'observation de la loi. Et Paul leur rappelle que seulement l'œuvre de Christ, que seulement l'œuvre de Christ qui peut leur obtenir une relation avec Dieu et d'être rendu juste devant Dieu. Et ce n'est pas l'observation de la loi. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez aller écouter les prédications précédentes sur Internet où on a tout expliqué comment Paul adresse cela à l'Église, aux églises de la Galatie. Mais pourquoi Paul se glorifiait de la croix seule? Parce qu'il nous le dit, il nous dit au verset 14, « Le monde, je ne vais pas me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est, crucifié, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Parce que par la croix de Jésus-Christ, le monde et tout, incluant tous ses sujets de gloire, ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Et par ce sacrifice-là, en plaçant ma foi en lui, j'ai reçu ce qui était le plus précieux, une relation intime avec Dieu. Ce pourquoi je travaillais pendant tant d'années, c'est Christ qui me l'a offert. Et c'est pour ça que c'est mon seul sujet de gloire. Et il va affirmer maintenant que ce qui compte vraiment, c'est pas d'observer la loi, c'est pas de faire plein de choses pour essayer d'être approuvé de Dieu. Ce qui compte réellement à la fin du verset 15, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et on a vu cela, entre autres, dans la dernière prédication dans Galates 5, dans la fin du chapitre 5 de Galates. On voit que les chrétiens, ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, reçoivent le Saint-Esprit et vivent maintenant une nouvelle vie, sont transformés pour être une nouvelle création qui vit à la gloire de Dieu. Une nouvelle création qui vit pour servir Christ et glorifier l'œuvre de sa croix dans nos vies. Une nouvelle création qui vit par l'Esprit de Dieu et qui marche selon l'Esprit de Dieu. Maintenant, au début du chapitre 6, Paul va expliquer dans certaines situations comment on peut vivre à la gloire de la croix, à la gloire de Jésus-Christ. Comment on peut porter le fruit de l'Esprit dans des situations précises. Et Paul va expliquer comment porter du fruit et vivre seulement pour la gloire de Christ. Et on va apprendre par le texte qu'on manifeste le fruit de l'Esprit lorsque nous vivons pour la gloire de la croix en faisant deux choses, en démontrant l'amour en action et en abandonnant nos vaines poursuites. C'est ce qu'on va voir à travers le texte. Comment vivre pour la gloire de la croix si la croix est la seule chose qui compte et qui me procure une relation avec Dieu? Comment je peux vivre et me glorifier de la croix et vivre en glorifiant Jésus-Christ parce qu'il a accompli pour nous. Alors, on va voir ensemble trois moyens. On vit pour la gloire de la croix en portant les fardeaux les uns des autres, en faisant du bien envers tous sans se relâcher et en abandonnant mon confort et ma gloire personnelle. Et on va voir ensemble dans les versets 1 à 5 que une des façons dont on peut se glorifier de la croix de Jésus-Christ, c'est en portant les fardeaux les uns des autres. Et Paul va adresser, entre autres, une question de comment on doit agir lorsqu'un frère, une sœur tombe dans le péché, comment je dois glorifier Christ à travers la manière dont je vais intervenir auprès de ce frère ou de cette sœur-là. Et donc, Paul il va affirmer que l'important, c'est de porter les fardeaux les uns des autres. Et on va réalise dans un sens qu'on a besoin de savoir comment faire. Si je vous dis ce matin, portez les fardeaux les uns des autres, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je fais ça? Puis, en même temps, Paul va dire, il y a des pièges à éviter lorsqu'on est là pour porter les fardeaux les uns des autres, et c'est ce qu'on va voir ensemble. En portant les fardeaux des uns des autres, on doit premièrement cultiver un cœur humble et rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 1, lorsque Paul dit « Si un homme vient à être pris, à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et versets 4 et 5, « Que chacun examine ses propres œuvres. » Et alors, il aura le sujet de se glorifier pour lui seul. Et verset 5, « Car chacun portera sa propre charge. » Donc, lorsque je vois un frère tomber dans un péché et que j'ai besoin de le relever, j'ai besoin de me préparer à faire cette œuvre-là que le Seigneur me demande, à porter le fardeau en tentant de le ramener. Le but, c'est quoi? De le redresser avec un esprit de douceur, de le ramener avec douceur. Et pour ça, on doit cultiver un cœur humble et rempli de l'Esprit de Dieu. Premièrement, notre but, c'est de rechercher la gloire de Christ dans notre vie. Si j'ai un paquet de péchés non confessés ou que je me glorifie de toutes sortes de choses, comment je peux aller reprendre un frère qui tombe dans le péché? J'ai besoin d'être premièrement recherché d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de rechercher la gloire de Christ dans ma vie, premièrement. Et ça, ça se fait en s'examinant, comme Paul le dit, en confessant. Un cœur qui confesse et qui travaille avec l'aide de l'Esprit de Dieu à glorifier Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait, dans toutes les actions. Et là, certains vont dire, « Ouais, mais Alex, tu nous demandes-tu d'être parfait pour avant d'aller reprendre un frère? » Non, c'est pas ça que je demande. C'est pas ça que la Bible demande. Puis c'est, honnêtement, frères et sœurs, si vous tombez puis qu'un frère vient vous voir, attendez-vous pas à ce que ce soit quelqu'un de parfait qui vient vous reprendre. Mais ce que le Seigneur demande, c'est, verset 1, « Vous qui êtes spirituels, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, redressez-le avec douceur. » Et c'est pour ça qu'on a besoin de cultiver cette humilité, d'admettre devant Dieu nos propres faiblesses, nos péchés, les confesser, puis demander à l'Esprit de Dieu, de demander à l'Esprit de Dieu, « Seigneur, viens m'aider dans ces faiblesses-là. Je vois mes faiblesses. J'ai besoin de ta grâce pour marcher et marcher à ta gloire. » Donc, notre but premier, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. Et deuxièmement, ensuite de ça, lorsque c'est notre but premier, qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on cherche à être spirituel, rempli de l'Esprit de Dieu, maintenant, je veux rechercher la gloire de Christ dans la vie de mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ça, mais j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu et faire ce travail devant Dieu, de m'humilier et d'aller devant le Seigneur avant d'aller vers mon frère que j'ai besoin de relever. Et donc, dans un sens, notre but, ensuite de ça, après l'avoir cherché la gloire de Christ dans ma vie, c'est de l'avoir dans la vie de mes frères et sœurs. Et Paul dit, je veux vivre pour la gloire de la croix, mais si la croix est mon seul sujet de gloire, puis qu'il y en a qui se disent, des disciples de Jésus-Christ, ben je veux voir la croix glorifiée dans la vie de mes frères et sœurs, et je vais porter les fardeaux les uns des autres en allant vers eux. Donc, il y a des choses qu'il faut réaliser. Il y a une des choses qu'il faut réaliser lorsqu'on voit un frère tomber et qu'on va aller le reprendre, c'est que il faut réaliser que le travail, ce travail-là de redresser, de ramener sur la bonne voie, c'est un travail qui se fait à trois. On dit ça dans EE. Laurent, il connaît bien. Ceux qui ont fait EE, vous connaissez bien. Lorsqu'on fait de l'évangélisation, on dit que c'est un travail qui se fait à trois. Toi, qui parle, puis je pense que ça s'applique à aller reprendre un frère. Moi, qui vais aller reprendre le frère qui a besoin d'être redressé, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans mon cœur pour apporter une douceur, une humilité, pour redresser. Et le Saint-Esprit dans la vie de mon frère, qui peut l'éclairer et dire, oui, j'ai manqué, je veux marcher pour la gloire de Dieu maintenant. Donc, il faut réaliser qu'on n'est pas tout seul dans cette œuvre-là. Le Seigneur nous utilise. Il est à l'œuvre dans le cœur de mon frère. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour qu'on puisse, ensemble, marcher pour la gloire de Christ. Et ça commence pour ça, vu que l'Esprit de Dieu, et je pense que c'est l'agent principal dans tout ça, pour reprendre, pour relever, ça commence dans la prière. Et on doit prier, mon frère, ma sœur qui est tombée, et puis qui a besoin d'être redressé avec douceur, et on doit demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Ça commence en étant entièrement dépendant de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le passage. En étant spirituel et en voulant agir avec douceur, on veut s'examiner soi-même et y aller en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, on doit être prêt à rechercher la gloire de Christ dans notre vie, premièrement, mais aussi dans la vie de celui qui tombe, en cultivant un cœur humble et rempli de l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, on doit ramener avec douceur. Lorsqu'on veut intervenir, on doit le faire dans l'humilité, en admettant nos propres erreurs. Par exemple, si moi-même, je sais que dans ma relation avec mon frère, il y a des choses que j'ai manquées, ou même que mon frère, dans un sens disposé à la repentance, je dois admettre mes propres erreurs. Écoute, mon frère, je viens, je voulais te parler, j'ai à cœur de te parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de te parler, puis j'ai prié là-dessus. Puis honnêtement, tout ce que je désire, c'est voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais je suis conscient que j'ai mes propres faiblesses, moi aussi, puis par la grâce de Dieu, le Seigneur m'aide à grandir. Puis peut-être que tu es même conscient de mes faiblesses, puis je te demanderai de prier pour moi. Mais il y a quelque chose que je voulais te dire par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, on adresse la situation. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est que j'arrive pas là avec mes grands sabots, dire « Hey, mon frère, tu es tombé dans le péché, puis tu as besoin de te repentir. » On ne dit pas ça comme ça, évidemment, là, mais je caricature un peu l'idée. Là. Sans avoir préparé le terrain avec le Seigneur et avec mon frère. Lui, il est peut-être pleinement conscient de toutes mes faiblesses, puis déjà, il y a une barrière. Qu'est-ce qu'il a à me dire, lui, Marquis, un matin? Là? Marquis, c'est un pécheur comme toi, hein, puis, mais il essaie de chercher la gloire de Dieu puis dans sa vie, puis j'aimerais ça t'encourager à glorifier Dieu. On prépare le terrain à la relation. On le fait dans l'humilité, en admettant nos propres erreurs. Et on exprime notre désir de voir la gloire de Christ manifestée dans la vie de mon frère et ma sœur. On le fait avec un esprit qui cherche à être quelqu'un qui aide celui qui est tombé. Et dans un sens, ce que Paul dit, redressez-le avec un esprit de douceur, ça veut dire, t'es là pour lui. T'es pas là pour... Fais-tu dire que tu es un pécheur, tu as besoin de te relever, de te repentir, sinon Dieu va te juger, va te punir. Non, non. Soyez conscients que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et on est là pour le redresser. On est là pour être à côté de lui et l'aider à se relever. Et donc, on doit le faire avec douceur. Et là, ça va encore un peu plus loin. En étant prêt à porter les fardeaux les uns des autres. Verset 2, Paul va dire « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Si tu veux accomplir la loi, porte les fardeaux de tes frères et sœurs. Demande-leur l'amour. Demande-leur de l'amour. Et il faut admettre qu'on a tous parfois des fardeaux difficiles à porter. On vit des épreuves, des découragements, des tentations. Et je suis certain que vous avez déjà eu à l'esprit cette pensée-là et que j'aimerais donc quelqu'un qui est là à côté de moi pour m'aider à m'en sortir. Tu sais, quand tu luttes puis que t'es dans une épreuve puis c'est difficile puis tu te sens seul, ça t'est passé par la tête sûrement une fois de dire j'aimerais ça que quelqu'un soit là avec moi pour m'aider à porter ça. Mais le plan de Dieu pour son Église, c'est pas qu'on vive chacun notre bord, mais qu'on vive ensemble, qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Puis qu'on soit là pour ceux qui vivent une épreuve, qui vivent des luttes dans le péché, puis qu'on soit là pour aider à redresser par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ton frère, ta sœur, aussi ont besoin de toi. Si tu t'es retrouvé dans des situations que tu voyais que tu avais besoin de quelqu'un, peut-être qu'il y a un frère, une sœur autour de toi qui a besoin de toi maintenant. Tu as peut-être vu le besoin. As-tu fermé les yeux? As-tu dit, ah, le Seigneur va arranger ça? Le Seigneur veut nous utiliser, tous et chacun, comme Église, pour... interagir ensemble et porter les fardeaux les uns des autres, ce qui est parfois difficile à porter. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne les frères et sœurs pour nous aider à le porter. Et on doit être disposé. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être facile par orgueil de ne pas accepter l'intervention d'un frère ou d'une sœur dans notre vie. Ça, c'est celui qui est dans l'épreuve, dans la tentation. Est-ce que tu es disposé à ce qu'un frère ou une sœur vienne et t'aide? Le Seigneur les a mis là pour toi. Es-tu prêt à ce qu'ils viennent et qu'ils t'aident à porter tes fardeaux? Puis, comme je disais, entre autres, quand tu connais les péchés de l'autre. Si tu attends que quelqu'un soit de parfait, vienne t'aider, tu vas attendre longtemps. Parce qu'on va arriver à la perfection lorsqu'on va être dans la présence de Jésus-Christ. Mais si tu attends que quelqu'un soit parfait pour t'aider dans tes luttes, tu vas rester tout seul, mon ami. Mais Dieu donne à son Église des gens remplis de son esprit qui peuvent aider. Alors, même si tu connais les faiblesses de l'autre, es-tu prêt à ce que Dieu utilise quelqu'un d'imparfait pour t'aider à te relever quand tu tombes? Et pour ça, je pense, frères et sœurs, si on veut développer un amour entre nous, entre frères et sœurs, il faut arrêter de jouer à l'Église. Quand je dis arrêter de jouer à l'Église, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est arrêter de se limiter à venir le dimanche matin, s'asseoir, recevoir tout ce qui se passe ici, puis partir comme si la vie chrétienne, c'était du take-out. Je m'en vais, ou de service à l'auto, excusez-moi l'anglicisme, mais je m'en vais à l'église McDonald's fashion, à la manière de McDo. Oui, je vais prendre 3 chants avec une petite prédication, puis merci, bonsoir. C'est pas comme ça que le Seigneur veut que son église agisse. On n'est pas ici le dimanche matin pour rester assis, puis take out, on s'en va. On est ici pour entrer en relation les uns avec les autres, voir le besoin dans la vie de mon frère, ma sœur, puis dire, je veux voir la gloire de Christ dans sa vie, je veux être là pour l'aider. Oh, Seigneur, je sais pas comment faire ça, là. Alex, il me dit de faire ça, mais je sais pas comment faire. Appuie-toi sur la grâce de Dieu, dans la prière, dans l'esprit, puis peut-être tu demandes à quelqu'un autour de toi, dire, j'ai vu ça, puis j'aimerais ça l'aider, peux-tu m'aider, me dire comment je pourrais faire ça? On a besoin de s'investir. Pour porter les fardeaux les uns des autres, on a besoin de s'investir dans la vie de l'Église. L'Église, ce n'est pas le show du dimanche matin. L'Église, c'est les frères, les sœurs qui sont assis à côté de toi. Puis ils ont besoin de toi. Puis vous avez besoin d'eux pour glorifier Jésus-Christ. Alors, arrêtons de jouer à l'Église, de faire comme si l'Église c'était un événement le dimanche matin. Et cherchons à entrer en relation. Et on a plusieurs moyens, du coaching, de la formation de disciples, l'investissement dans des ministères. À travers ça, on entre en relation les uns avec les autres, puis on développe cette idée-là de démontrer de l'amour et puis de porter les fardeaux les uns des autres. Donc, en recherchant la gloire de Christ dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, on doit être prêt à faire les efforts qu'il faut. Puis il faut aider mes frères, mes sœurs, à persévérer dans leur marche pour la gloire de Dieu. Et on va porter du fruit, porter le fruit de l'Esprit et vivre pour la gloire de Christ lorsque je vais rechercher la gloire de Christ dans ma vie puis dans la vie de ceux qui m'entourent, de ceux qui tombent en portant leur fardeau. Et donc, on a besoin de démontrer de l'amour en étant là pour relever celui qui tombe. Une autre façon dont on peut vivre pour la gloire de Jésus-Christ, dans les versets 6 à 10, c'est en faisant du bien envers tous sans se relâcher. Et Paul, dans un petit verset, et je pense que c'est en lien avec les autres qui suivent, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, je lisais ça, le Seigneur, tu veux-tu vraiment que je prêche ça un matin? Il me semble que j'aurais pris, je ne sais pas, moi, quelqu'un d'autre, un autre ancien. M. Panton, il aurait pu venir prêcher. Moi, c'est moi qui enseigne. Puis, je suis soutenu par l'Église. Mais c'est là. Je vais prêcher là-dessus. Pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Fait que on doit faire du bien envers tous sans se relâcher, c'est ce que Paul demande. Mais on le fait en contribuant financièrement au soutien de ceux qui enseignent la parole. Verset 6. Pour grandir spirituellement, l'Église a besoin de pasteurs, d'ouvriers qui vont s'investir dans l'enseignement clair des Écritures. L'Église, elle ne fonctionne pas tout seule. Elle a besoin d'être nourrie. Nourrie de la parole de Dieu, nourrie des Écritures. Et l'Église a besoin d'enseignants dans l'Église qui vont se consacrer à enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu, pour les équiper à faire l'œuvre de Dieu puis à glorifier Dieu. L'Église a besoin de ça. Et puis l'enseignement, l'exposition de la parole, ça demande du temps. Je vais vous donner, c'est jamais pareil, là. Mais dans une semaine, là, pour ma part, je ne sais pas, Yannick, peut-être autour de ça lui aussi, 12 à 15 heures de préparation pour venir ici le dimanche puis enseigner la parole de Dieu. Pour aller scruter un peu plus les nuances dans le grec puis comprendre qu'est-ce que tous les mots veulent dire. Apporter, chercher, réfléchir, comment ça s'applique dans la vie des frères et sœurs, tout ça, puis comment je peux leur apporter pour qu'ils puissent voir la beauté de l'Évangile puis de l'appliquer. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Ça demande du temps à la prière pour que l'Esprit nous aide à moi-même vivre ce texte-là. Et le Seigneur me brasse des bouts, hein? Je pense qu'il vous brasse aussi à travers la prédication, mais c'est le premier qui est brassé, c'est moi. Hey boy! Faire du bien à tous sans se relâcher. Eh hey boy! Seigneur, tu me parles cette semaine, puis j'ai besoin de... Oui, Seigneur, je veux faire ça. Si le Seigneur vous brasse, il me brasse. J'ai besoin du temps dans la prière pour pouvoir être un modèle puis l'appliquer dans ma vie. J'ai besoin de faire une étude approfondie. Ça demande du temps. Et ce temps-là, ben des fois, l'Église peut décider, puis a décidé dans le passé de consacrer des hommes à enseigner la parole de Dieu. Dieu nous enseigne. Lorsqu'on enseigne la parole, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et lorsqu'on a ces temps d'offrande, on soutient l'œuvre du ministère, vous nous soutenez. Et une des choses que je veux mentionner, c'est qu'on votre soutien est nécessaire pour que la gloire de l'Évangile puis la gloire de Christ soit proclamée de semaine en semaine. Puis on est bénis. Honnêtement, je connais des situations, des missionnaires, des pasteurs qui sont dans des situations où ils courent après leur soutien financier. Ils passent quasiment la moitié de leur temps à juste avoir un soutien pour faire l'œuvre du ministère. Et si on est béni, on a un salaire qui nous permet de faire vivre notre famille. Puis je rends gloire à Dieu pour ça. On est bien traité ici. Mais des fois, il y a des besoins qui s'ajoutent dans l'Église. L'Église grandit, il y a des besoins. Et puis, on a besoin d'ajouter peut-être des enseignants pour adresser des situations particulières, pour prendre du temps avec des couples en difficulté, pour aider des gens à résoudre des conflits, les conseiller dans la vie de chacun. Et puis, je dois vous dire pendant la période où les effectifs étaient réduits, je voyais, wow, il y a du travail à faire ici. On a besoin de soutenir l'œuvre de Dieu et peut-être avoir des enseignants qui vont être formés ici puis s'ajouter à l'équipe pour qu'on puisse répondre aux besoins. Alors, l'exhortation de Paul, c'est de contribuer au soutien de l'enseignement de la parole. Puis ça, c'est faire du bien à nous, puis c'est faire du bien aux gens autour de nous parce qu'on proclame l'Évangile aussi à travers ça. Puis évidemment, on va pas voir dans votre compte de banque pour vous dire combien donner. Dieu vous le met à cœur. Mais si ça fait un peu quelque temps que tu t'es relâché dans tes offrandes pour soutenir l'œuvre du ministère, je t'encourage à le faire pour la gloire de Dieu puis remettre ça devant le Seigneur pour continuer puis persévérer. Parce que le Seigneur le demande. Et le Seigneur est fidèle. Il va prendre soin de son Église. Il va mettre à cœur par son esprit à ses enfants d'être fidèle dans le soutien de l'œuvre de l'Évangile puis de l'enseignement de la parole. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ce qui se fait déjà. Mais la parole est là, puis des fois, il y en a quelques-uns qui ont besoin d'exhortation. C'est pour ça qu'on adresse ce texte-là ce matin. En même temps, si je veux faire du bien envers tous sans me relâcher, c'est de contribuer financièrement à ceux qui enseignent la parole, mais c'est aussi de ne pas se relâcher à faire le bien envers nos frères et sœurs. Et on voit, en fait, qu'une Église vivante et en santé spirituelle, on constate que l'Église est vivante, qu'elle grandit lorsque l'amour est manifesté entre les frères et sœurs, un amour en action. Un amour qui vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et puis, lorsqu'on voit qu'une Église est vivante, c'est parce que c'est le fruit de la présence de Dieu dans la vie des croyants. C'est ce qu'on a vu dans Galates 5, 22. Le fruit de la présence dans ma vie, c'est l'amour. Il va y avoir de l'amour manifesté. Puis l'amour manifesté par des actions concrètes. J'invite à tourner dans 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Il y en a qui connaissent bien Jean 3,16. Mais est-ce que vous connaissez bien 1 Jean 3,16, qui est la suite de Jean 3,16? On va le lire ensemble. 1 Jean 3, versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, Jean 3, 16. Hein? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La suite de Jean 3,16, c'est 1 Jean 3,16. Si Christ a donné sa vie pour moi, je dois donner ma vie pour mes frères. Et ça veut dire faire du bien à ceux qui sont dans l'Église, à mes frères et sœurs. Si Christ a donné sa vie pour moi, ma vie devrait être consacrée à faire du bien à ceux qui m'entourent. Et en faisant du bien, puis en démontrant cet amour-là, qu'est-ce que je fais? Je rends gloire à l'œuvre de Christ dans ma vie. Puis je dis, « Hey, c'est pas par moi-même que je fais ça, mais Christ m'a donné sa vie pour moi, il a tout donné, il a transformé mon cœur. Aujourd'hui, je veux vivre pour lui, puis je veux aimer mes frères et sœurs, puis donner ma vie pour mes frères et sœurs. » Ça vient pas tout seul, ça vient par un changement de cœur. Un changement qu'on a vu, comme on l'a vu la semaine passée. L'exhortation de Paul dans Galates, c'est de ne pas se relâcher à faire le bien. Parce que ça pourrait être notre tendance. Verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et donc, notre tendance, parfois, ce serait de dire, « Mais là, je suis tanné, là. J'ai assez donné, moi, là, là. Hey, ça fait 20 ans que je suis dans cette église-là, là. Il n'y a rien que moi qui sert là-dedans. Ouais, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes qui servent. Moi, je suis cœur. Moi, j'abandonne tout ça, puis regarde. Ils s'arrangeront. Ça peut nous arriver de se relâcher, de se lasser, d'être découragé, puis d'être au point de dire, bon Québécois, moi, je suis cœur. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ça m'arrive des fois de dire, oh, moi. Ça me serait bien plus facile si lui, était mieux. Puis Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans son cœur à lui? Il me semble que ce serait bien plus facile si tu le changeais. Puis... Mais Seigneur, il place dans l'Église des gens imparfaits comme moi, le premier. Puis c'est des fois, c'est ça le raisonnement. Christ est venu donner sa vie pour les pécheurs dont je suis le premier. Il faut que je me rappelle ça. C'est moi le premier des pécheurs. Puis Seigneur, il y en a mis autour de moi. Puis on a besoin de travailler ensemble. Mais on aurait cette tendance-là, pouvoir être tanné, être découragé, de dire, c'est tout le temps les mêmes, puis il me semble que pour qui tu le fais? Oublie pas pour qui tu le fais. Tu le fais pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour toi. Les gens ne seront pas toujours reconnaissants de l'effort que tu mets pour leur faire du bien. Des fois, ça va passer comme... Comme dans du beurre, même pas un merci. Ouais, ça va arriver. Ne te lasse pas et ne te relâche pas de faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on va moissonner au temps convenable. Si tu attends d'avoir des résultats tout de suite, des fois tu peux attendre longtemps. Mais regarde à la récompense qui s'en vient. Regarde à la récompense que le Seigneur te réserve. Puis continue, relâche-toi pas parce que ça là, ce qui te réserve dans le ciel, puis la vie éternelle, le bonheur éternel, c'est rien à comparer d'un petit merci, là, puis de ce que les gens pourraient faire de plus pour toi, pour te remercier. Attends-toi à une récompense éternelle, parce qu'on va moissonner au temps convenable. Et le Seigneur nous exhorte à semer selon l'Esprit. Fais du bien envers tous. Consacre-toi à porter les fardeaux les uns des autres. Peut-être que tu ne vois pas de fruits, mais le Seigneur te réserve une récompense. Ça devrait être ta joie. Puis en même temps, la gloire de qui tu recherches? On recherche la gloire de Christ. Je ne veux pas me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Ce n'est pas à cause que je suis un bon chrétien qui fait du bien envers tous. Hey, regardez-moi. Non! Comme je l'ai déjà dit, regardez à Christ. Moi, c'est lui qui a fait ça en moi, puis je veux continuer, puis je veux vivre jusqu'à la fin. En ne me glorifiant de rien d'autre que de la croix de Christ. Et ça se fait en faisant du bien sans se relâcher. Encourageons-nous, frères et sœurs, à vivre selon l'Esprit et à attendre la récompense que le Seigneur nous réserve, à semer selon l'Esprit, puis on va moissonner de l'Esprit de Dieu, quoi? la vie éternelle, la récompense finale. As-tu vu des besoins autour de toi? Dans l'église, un frère, une sœur qui avait besoin. Peut-être que c'est toi que le Seigneur attend d'utiliser. Allons les uns vers les autres pour faire du bien, parce qu'on va récolter au temps convenable, au temps de Dieu. Et si on veut vivre pour la gloire de Christ, on doit persévérer en faisant du bien envers tous, sans se relâcher. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, pour vivre pour la gloire de la croix, c'est en démontrant de l'amour envers nos frères et sœurs, en portant les fardeaux les uns des autres, puis en faisant du bien envers tous, spécialement envers les frères, comme le texte dit, sans se relâcher. Et finalement, Paul va conclure son épître, versets 12 à 18, en disant qu'on va glorifier Christ en abandonnant mon confort et ma gloire personnelle. Lorsque je dis mon confort, d'où je tire cette conclusion-là, c'est que dans un sens, Paul va dire, verset 12, « tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Et donc, les chrétiens de Galate et certains judaïsants leur demandaient d'être circoncis, demandaient aux païens d'être circoncis par crainte des autres juifs, par crainte d'être persécutés par d'autres juifs. Et la crainte de la persécution faisait en sorte que, fais-toi circoncis, comme ça on ne sera pas dérangé. Comme ça tu vas suivre la loi de Dieu puis on va être tranquille. L'œuvre de la croix, la gloire de la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas une œuvre confortable. Pierre dit qu'on est appelé à souffrir. On va être appelé à souffrir pour la gloire de Christ. Puis on voit dans l'exemple de Paul. Paul a souffert pour la croix, pour la gloire de la croix. Et ça se peut qu'on soit persécuté. Il faut être prêt à souffrir pour l'Évangile. Ceux qui vivent pour l'Évangile, Galates 1, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à éviter d'être persécuté? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et être serviteur de Jésus-Christ, ça demande parfois de souffrir pour l'Évangile et de souffrir parfois des persécutions pour l'Évangile. Es-tu prêt à quitter ton confort pour que l'Évangile et la gloire de Christ soient proclamés? Les gens autour de nous vont rejeter l'Évangile pour se confier dans leurs propres moyens pour être sauvés. Ils recherchent leur propre gloire plutôt que la gloire de celui qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit sauvés. Et ça va arriver. Je vais arriver, je vais prêcher l'Évangile, les gens vont le rejeter. Et là, on est comme, oh, ça donne quoi, là? Tu sais, il me semble que c'est plate, là. Toutes les fois que je prêche l'Évangile, ils ne veulent rien savoir. Puis là, on se sent inconfortable dans tout ça. Ça va arriver. Il faut le savoir. Ça va arriver. On va être persécuté pour l'Évangile. Mais notre sujet d'acceptation, c'est pas dans le fond, notre sujet de gloire, c'est pas notre acceptation aux yeux des autres pour nos bonnes œuvres ou pour nos bonnes œuvres aux yeux de Dieu, mais notre sujet de gloire, c'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Mon seul sujet de gloire, c'est rien d'autre, Paul disait. Donc, je vais être persécuté. S'il faut que je sois persécuté pour ça, je vais l'être. Et vivre pour la gloire de Christ, c'est ce qui va rester à la fin. Quand que je vais mourir, toutes mes acquis, mes réalisations, mes diplômes, même si j'ai eu de la joie à les accomplir, puis j'ai eu de la joie à être dans un tournoi bantam où toute l'aréna était remplie, ça finit ça après. Ça va s'envoler en fumée. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce que Christ a accompli pour toi. Ce que Christ a souffert. Quand tu vas arriver au ciel, il va y avoir Jésus qui est là avec les trous dans ses mains et dans ses pieds. Puis toi, tu n'auras rien. Qu'est-ce que tu es mieux de faire? De te confier en lui pour la vie éternelle. De dire que lui est le seul sujet de gloire que je peux poursuivre parce que le reste va s'évanouir en fumée. Lui seul va demeurer et va durer éternellement et son œuvre est efficace pour nous donner la vie éternelle, être réconcilié avec Dieu, puis vivre la joie éternelle. Pourquoi je vais me glorifier seulement de la croix de Jésus-Christ? Parce que tout le reste s'en va en fumée, puis il y a juste lui qui va rester à la fin. Puis je veux me confier en lui, Puis je veux me glorifier de ce qu'il a fait dans ma vie parce que je sais que ça peut transformer la vie des gens autour de moi. Alors on veut vivre à la gloire de Christ seul. On va se réjouir de tout ce qui va se passer dans notre vie. Mais à la fin, qu'est-ce qui va rester? C'est pour ça qu'on a besoin de venir à Christ, de se confier en lui par la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Christ s'est donné pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et réconcilié avec Dieu. As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Es-tu venu à lui pour obtenir son pardon et placer ta foi en lui pour avoir la vie éternelle? La récompense que Dieu nous réserve, c'est la paix avec Dieu. Goûter chaque jour sa grâce, sa miséricorde et d'avoir l'assurance qu'un jour, je vais être avec lui pour l'éternité. Et pour le recevoir, il faut abandonner notre gloire personnelle. Il faut s'humilier devant Dieu et recevoir ce que Christ a fait pour nous. Pour vivre pour la gloire de Jésus-Christ, on doit abandonner notre confort, notre gloire personnelle et être prêt à souffrir pour l'Évangile. En laissant Christ vivre en nous. Verset 15, « Le monde a été crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Maintenant que j'ai été crucifié avec Christ, qui vit en moi? » C'est Christ qui vit en moi, Galates 2, verset 20. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis, comment? Par la foi à celui qui s'est donné, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est la gloire de Jésus-Christ seul. On pourrait se glorifier de plein de choses, mais la seule chose qui demeure et qui me donne accès à la gloire éternelle, c'est l'œuvre de l'amour de Christ, que Christ a accompli pour moi. Pour cela, je dois être prêt à donner ma vie pour mes frères et sœurs. Je dois être prêt à supporter leur fardeau, à porter leur fardeau puis à faire du bien. Et pour cela, je dois être prêt à abandonner tout sujet de gloire pour donner gloire à Jésus-Christ seul dans tous les domaines de ma vie. Cette croix est mon seul sujet de gloire, car par elle, j'ai été libéré de la malédiction de la loi, j'ai été pardonné de mes péchés, j'ai obtenu la paix avec Dieu. Et maintenant, je peux connaître Dieu. J'inviterai maintenant l'équipe de louanges à s'avancer, puis je vous demanderai en même temps de tourner dans Jérémie 9. Jérémie 9. On va aller lire les paroles de Dieu lui-même. Par la croix de Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu, je peux connaître Dieu. Jérémie 9, verset 23. « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. » Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Si tu veux te glorifier de quelque chose, tu peux te glorifier que tu connais Dieu en Jésus-Christ. Et c'est à cela que Dieu prend plaisir. Veux-tu appliquer ton cœur à ce qui fait plaisir à Dieu? Veux-tu consacrer ta vie à le louer, à le glorifier, pas juste le dimanche matin dans des chants, mais dans tout ce que tu fais? Portons les fardeaux les uns des autres. Faisons du bien sans se relâcher. Puis abandonnons notre confort pour vivre pour la gloire de la croix seule. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, on est béni par ta parole. Je suis béni de te connaître. Et merci, Seigneur, merci pour ton esprit qui t'a placé en moi, qui me permet de vivre pour ta gloire. Et Seigneur, on a besoin comme Église d'apprendre à vivre pour ta gloire dans nos relations les uns avec les autres. D'être prêt à rechercher la sainteté dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Qu'ensemble, on puisse laisser Christ vivre en nous. Maintenant, je vis dans la foi de celui qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et à cause de cela, Seigneur, je dois donner ma vie pour mes frères et sœurs et je dois abandonner tout autre sujet de gloire personnelle pour donner la gloire à toi seul. Seigneur, on va chanter tes louanges, on va célébrer ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Dispose nos cœurs à l'adoration parce que ta parole est merveilleuse puis on a découvert en toi la vie éternelle, le bonheur éternel. Et on veut se glorifier de rien d'autre que de la croix de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire, Seigneur notre Dieu, et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.